Et en Afrique, c'est exactement la même chose. Ce que l'on porte à Dakar, ce n'est pas forcément ce que l'on porte à Abidjan, ni ce que l'on porte à Kinshasa. La façon de nouer le pagne à Kinshasa n'est absolument pas la même façon de nouer le pagne à Abidjan. Et vous pouvez avoir des créateurs qui arrivent à Kinshasa avec des collections qui vont être là, ça sera très joli, mais ils vont se planter économiquement, ça ne va pas se vendre parce que la façon de nouer le pagne est différente. Donc, et ça, ce sont des détails qu'on oublie. J'ai beaucoup de mal avec le terme mode africaine et je pense que de plus en plus, il faut arrêter de faire cette espèce d'amalgame entre tous les styles, toutes les tonalités. C'est pas parce que il y aura une mode sénégalaise, une mode ivoirienne, une mode burkinabé, une mode béninoise qu'on n'aura pas un sentiment de panafricanisme.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Jeanne Sardin-Thomas. Marie-Jeanne est la rédactrice en chef du magazine Brune qui a fêté sa 100e édition fin 2023. Brune est un magazine généraliste qui valorise les femmes afrodescendantes qui ont un impact en Afrique et dans le reste du monde. Marie-Jeanne va nous parler de son parcours et de sa vision de la représentation de la mode africaine dans les médias. Bienvenue Marie-Jeanne, je suis ravie de te retrouver pour enregistrer cet épisode. Comment vas-tu?
Bonjour Amata, écoute, je vais plutôt bien, mieux que le temps, et je suis ravie d'être là pour ce podcast.
Ben écoute, merci beaucoup. Donc, comme toujours, quand je commence le podcast, je vais te demander de te présenter.
Alors moi, je n'ai pas tellement d'intérêt. C'est ce que j'ai fait qui a de l'intérêt. Donc, je dirais que je suis Marie-Jeanne Sardin-Thomas. Je suis la fondatrice du magazine Brune. C'est un magazine que j'ai lancé en 1991. Ça fait déjà 32 ans. Alors, pourquoi je l'ai lancé? C'était pour rendre visible ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les femmes afrodescendantes. À l'époque, j'étais déjà donc dans la presse. J'étais rédactrice en chef de magazine qui appartenait à des Caucasiens ou à des hommes. Et je me rendais compte que l'image qu'on projetait des femmes noires n'était absolument pas en adéquation avec toutes ces femmes que je rencontrais à travers mes voyages, à travers mon relationnel, à travers mon network. Et je me suis dit que si je voulais vraiment que les choses changent, il fallait que ce soit moi qui le fasse. Donc j'ai lancé Brune en 1991 pour montrer justement cette diversité, cette pluralité des femmes afrodescendantes dans des milieux professionnels très variés, que ce soit de la chercheuse à l'infirmière, que ce soit de l'enseignante à l'attachée de presse, du médecin à la chef d'entreprise. Il y avait comme ça une flopée de femmes absolument passionnantes, magnifiques, qui n'avaient absolument pas les honneurs de la presse, ni africaine, ni antillaise, ni occidentale, et qui méritaient, à mon sens, d'être montré. Donc, c'est pour ça que Brune est née et ça fait 32 ans que l'aventure existe et continue.
Très bien. Du coup, je te remercie de partager ça. Moi, c'est vraiment pour ça que je voulais réaliser cette interview avec toi. C'est que aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion, de représentation. Toi, tu parles de cette problématique et tu as décidé d'y apporter une solution en 1991. Comment tu peux expliquer que toi, tu as eu cette impulsion-là, en fait, de te dire bah, « il manque quelque chose, je vais apporter la solution, j'ai identifié un problème, j'apporte la solution ». Comment est-ce que c'est fait le cheminement qui a fait que toi, tu as dit je vais créer un magazine pour pouvoir contribuer à la représentation de femmes afrodescendantes ?
Alors, je crois que c'est un sentiment de révolte profond par rapport à ce que j'étais, par rapport à toutes les femmes que je voyais. Je me rappelle, il y avait une jeune chercheuse sénégalaise qui, à l'époque, avait fait un travail de doctorat sur la problématique du viol au Sénégal. Et j'avais proposé au directeur d'un magazine féminin donc, qui s'adressait aux femmes afrodescendantes de faire un article dessus. Il m'a dit « un article sur le viol au Sénégal, oh, c'est pas la peine, elles sont toutes consentantes ». Et j'avais été profondément choquée, mais je trouvais que ces propos étaient d'une violence. Et je lui ai dit « mais écoutez, mais qu'est-ce que vous dites ?» Et puis il s'est mis à rire. Mais même si c'était une boutade pour lui, je m'étais sentie vraiment agressée de façon très très importante par cette remarque. Ensuite, j'ai commencé à faire des piges donc dans des magazines français et j'étais très étonnée et même énervée que chaque fois qu'on me proposait un article à faire, moi en tant que femme noire, c'était sur, il fallait que je trouve un profil toujours le même de femme africaine, excisée, battue, musulmane, voilée, habitant en banlieue, avec des enfants et galérant. Et si c'était pas ce profil-là, ben, tout ce que je proposais à côté était refusé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle ne voit pas qu'il y a d'autres profils, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres femmes qui travaillent, il y a d'autres. Donc, en fait, c'était vraiment ce critère-là qui était dominant. Et il faut voir qu'à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans la presse que je dirais européenne, les femmes noires sont très, très peu représentées, sauf de façon exceptionnelle ou de façon homéopathique. Je m'explique. De temps en temps, on parle de telle personne, mais il n'y aura jamais, en fait, si tu veux, une problématique qui sera abordée avec un aspect véritablement positif. Un petit exemple, il y a un journal, je peux le citer, c'est le quotidien Le Monde qui m'avait appelé pour faire un article sur le magazine Brune, il trouvait ça intéressant. Et la journaliste, en fait, m'a interrogée. Donc, on a parlé médias, on a parlé professionnalisme, on a parlé entreprise. Et quand l'article est paru, elle a mis l'article dans la rubrique immigration. Et j'étais, là encore, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc, on a toujours il y a toujours cette vision très, très négative, donc des femmes très, non seulement négatives, mais très parcellaires, très fragmentées des femmes afrodescendantes. Et c'est pour ça que Brune existe, c'est pour dire non, on n'est pas comme ça. Il y en a peut-être qui sont comme ça, mais la majorité ne sont pas comme ça. Et je rencontre énormément de femmes chefs d'entreprise, que ce soit dans l'informel ou le formel, des femmes brillantes qui parfois ont davantage la niaque que les femmes occidentales. Et de celles-là, on n'en parle pas. Donc, je me suis dit, si demain, nous avons besoin d'icônes, parce que je crois qu'il est très important d'avoir des représentations de soi, des représentations positives. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que parfois, on se dit, je veux faire ça, mais étant donné qu'il n'y a pas de femmes qui me ressemblent, c'est-à-dire qui ont vécu la même chose que moi, qui ont la même pigmentation que moi, donc qui peuvent être confrontées à des problèmes d'ostracisme, de discrimination, de racisme, de non prise en compte de leurs valeurs. Donc, je me dis, si elles ont réussi à passer toutes ces étapes et être à ce stade, ben, moi aussi, je peux le faire. Donc, mais tant qu'on n'aura pas tous ces modèles, et que ce soit en Afrique, hein, je répète, que ce soit en Afrique ou en Occident, ben, la problématique de la femme noire est exactement la même. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est très important d'avoir des journaux qui nous ressemblent, qui parlent de nous et qui nous permettent aussi d'évoluer. Et surtout qui permettent aux autres aussi d'évoluer, de changer leur regard, parce que leur regard est complètement faussé par des idées d'un autre monde, d'un autre siècle.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, ce que je comprends, c'est que toi, ce que tu voulais, c'est vraiment déconstruire les stéréotypes, en fait. Quand tu parles de révolte, tu évoques le fait que tu étais énervée, c'est qu'il y a vraiment un espèce d'environnement ambiant dans lequel on maintient des stéréotypes et tu avais cette volonté de créer de nouvelles écoutes, de créer des modèles. Aujourd'hui, avec le 100e numéro de Brune, tu as eu l'opportunité donc de réaliser des interviews de différents profils de femmes afrodescendantes. Quel est le retour que tu as des lecteurs et des lectrices de ton magazine ?
Alors, je suis toujours très étonnée quand il y a des personnalités, mais également des étudiantes qui me disent « Vous ne pouvez pas savoir l'impact que le magazine a dans notre vie. » Récemment, il y a une ambassadrice africaine basée à l'étranger qui m'a envoyé un message en disant « Mais si Brune n'est pas là, on n'existe pas. » Et ça m'a fait plaisir, mais en même temps, j'ai eu froid dans le dos parce que je me suis dit, mais le combat est encore aussi important à mener. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que j'ai l'impression qu'au bout de 32 ans, les avancées sont certes là, mais elles ne sont absolument pas suffisantes. Elles ne sont absolument pas suffisantes et que le travail est encore de longue haleine. Et qu'il y aura effectivement quelques privilégiés qui vont s'en sortir, mais la majorité va stagner dans, je ne dis pas dans un marasme, mais dans une situation qui ne va pas les conforter et qui ne va pas leur permettre de s'épanouir complètement du fait de leur genre et du fait de leur origine ethnique. C'est ça qui est dramatique, c'est que parfois on se dit, tiens, il y a des changements qui se passent, voilà. Mais quand on voit la réalité des choses, ben c'est fou. Récemment, j'étais à un défilé d'Imana ici, j'étais assise à côté de une journaliste qui est maintenant à la Fondation Orange et elle s'occupe de diversité là-bas. Il s'agit d'Elisabeth Tchoumi et Elisabeth me disait, mais tu sais, le combat continue, le combat est encore plus hard et on n'est pas soutenu. Et surtout, en fait, par exemple, dans les grandes entreprises, sur 50 hommes qui dirigent une grande entreprise, il y a moins de 5 femmes qui dirigent une grande entreprise. Ça veut dire que les modèles auxquels on peut se référer pour construire nos rêves, pour construire nos carrières, sont très, très limités. Comment voulez-vous que moi, en tant que femme, même diplômée de la Sorbonne, avec un bac plus 5, que je puisse m'identifier à un banquier blanc chauve, en costume gris, qui ne me voit même pas, qui n'imagine même pas mon existence en tant que chef d'entreprise? Donc, et c'est ça la réalité. Et je pourrais dire aussi, c'est exactement la même chose. Comment puis-je m'identifier à un banquier africain avec son costume trois pièces, dans son bureau climatisé, qui me refuse un prêt parce que je suis une femme et qui n'a même pas regardé mon dossier? Donc, c'est là où le combat, finalement, on se dit qu'avec toutes ces années, les choses auraient changé. Bien sûr, il y a des choses qui ont changé. Il y a une jeune génération qui est très dynamique. Il y a les réseaux sociaux qui permettent de mieux communiquer. Mais dans le fond des choses, quand je vais dans les… j'appelle passer les campagnes, mais quand je vais dans les villages où je vois que la situation des femmes, on est encore à l'ère de la daba, mais moi, ça me fend le cœur. Alors qu'à côté, il y a des BMW, il y a des Mercedes, il y a des gens qui ont des voitures rutilantes, des moyens colossaux. Mais quand il s'agit des femmes, ben, on oublie qu'elles sont là, on oublie qu'on pourrait les aider, on oublie leur valeur ajoutée, on oublie que si elles arrêtent de bosser, on ne mange plus, parce que plus de 60% de l'agriculture, par exemple en Afrique, est tenue par les femmes, et le fait de femmes. Si demain elles se disent « on fait la grève pendant une semaine », les plantains, les ignames, le manioc, qui c'est qui va faire ça? Qui c'est qui va le nous en fournir? Personne. Donc, il y a cette considération que les choses n'avancent pas ou n'avancent pas assez vite ou avancent seulement pour une infime minorité. Et ça, c'est la réalité que je constate à travers mes voyages, à travers mon vécu, à travers les expériences. Récemment, j'ai interviewé une jeune femme qui est PDG d'une très grosse entreprise en Côte d'Ivoire et magnifique profil, MBA aux États-Unis. Elle a été PDG de vraiment de très grosses multinationales en Côte d'Ivoire. Et quand on parle concrètement, par exemple, de l'investissement des femmes, l'investissement professionnel, mais aussi l'investissement financier, je lui dis, mais si demain, une femme va emprunter 200 000 euros, 300 000 euros à une banque, est-ce qu'elle a des chances d'arriver, quel que soit son projet, même si c'est le projet le plus bancable au monde, est-ce qu'elle a des chances d'arriver à avoir un gain de cause? Elle me dit non. Elle me dit, la réalité, c'est qu'elle aura très peu de chances d'avoir gain de cause. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne a mis en place un fonds d'investissement dédié aux femmes. Donc voilà. Donc, on essaye toujours d'avoir des solutions comme ça, annexes, pour répondre, pour pallier finalement au manque de la société. Mais moi, je trouve que la situation n'évolue pas assez vite. Peut-être que les femmes ne se mobilisent pas non plus assez, qu'elles jouent plus l'individualisme ou le petit collectif pour leurs acquis sociaux et même économiques. Mais moi, je trouve que j'aurais aimé les combats que j'ai menés il y a 30 ans, j'aurais aimé ne pas les mener aujourd'hui.
Donc, tu fais un constat un peu, peut-être amer, ou en tout cas, tu as l'impression que, voilà, il y a 3 décennies qui sont passées et il y a toujours des inégalités très importantes qui font qu'il faut continuer à créer des solutions spécifiques pour aider les femmes afrodescendantes, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans de l'inégalité et finalement, 32 ans plus tard, tu vois pas tant de changements que ça.
Absolument pas. Ce n'est pas un constat amer, c'est un constat. Après, l'amertume peut être un moteur qui fait qu'on a envie de se battre encore plus fort. Je pense que quelqu'un d'autre, avec des propos un petit peu réactionnaires, va vous dire « Ah, oh, c'est une très bonne chose que ce soit comme ça ». Moi, je trouve que c'est dommage parce que, d'abord, ça veut dire que plus de 51% de la population mondiale et de la population africaine est amputée de ses droits et amputée de ses possibilités de rêver plus grand. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on ampute finalement une femme de quelque chose, on ampute aussi sa descendance. On ampute sa descendance. Donc, ça, c'est la réalité. On limite les possibilités de rêver des enfants, on limite les possibilités de rêver des filles. Donc, et ça, c'est moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était directrice d'école, qui était enseignante, qui était une femme absolument brillante et qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours conseillé de rêver, de faire mes choix, de faire attention, mais de faire mes choix. Et je lui suis très reconnaissante finalement de m'avoir donné cette éducation et d'avoir cru en moi, en me disant, bon, écoute, si tu tombes, tu te relèves, et puis bon, je serai là. Bon, elle n'est plus là. Mais ça a été important pour moi de la voir travailler, de la voir indépendante financièrement, d'avoir pu mener sa vie. Ce n'était pas facile parce que nous étions 4 enfants, et 4 enfants rapprochés, donc 4 adolescents chiants et chieurs en même temps, 4 étudiants en même temps. Donc, il fallait gérer tout ça. Mais son combat, en fait, moi, m'a terriblement motivée. Mais j'aurais voulu. Alors, aujourd'hui, j'ai une fille qui est dans la finance verte. Ma dernière fille est dans la finance verte. L'autre est architecte. Ce que je veux dire, c'est que je leur ai donné un socle où je sais que les combats que je mène à travers Brune, en fait, elles l'ont intégré, elles, depuis leur biberon, leur premier biberon. Donc, pour moi, c'est important de voir qu'elles soient indépendantes, qu'elles aient une vision de leur vie et tout ça. Mais j'aurais aimé qu'il y ait davantage de femmes comme ça. J'aurais aimé qu'il y ait que cette ouverture, justement, cette possibilité, que ce monde soit moins injuste vis-à-vis de celle qui donne la vie et de celle qui permet au monde aussi de progresser. Et ça, c'est la réalité. Donc, ce n'est pas un constat amer, c'est un constat. Et les chiffres sont là, je n'invente rien, les chiffres sont là et malheureusement, les chiffres sont têtus et récurrents.
J'entends. Effectivement, c'est un constat. Effectivement, comme tu le dis, c'est pas un constat amer. Toi, je sais que à travers ton média et tes différentes initiatives, tu soutiens en fait des initiatives. Tu vas soutenir certains défilés de mode ou tu mets en avant en fait des parcours de femmes. Tu évoquais par exemple une femme qui a monté un fonds d'investissement. Donc, à ta manière, en fait, tu apportes vraiment ta pierre à l'édifice. Il ne s'agit pas seulement d'un média qui présente en fait différents profils de femmes. Tu vas plus loin par ton soutien vraiment à certaines initiatives précises. Est-ce que tu peux nous parler de certaines initiatives auxquelles tu as pu participer?
Oui. Alors, parfois on me dit que le média est élitiste, mais il est volontairement élitiste parce que j'essaie de choisir des gens qui apportent des solutions à des problématiques vraiment importantes. Quand je parle de cette jeune femme qui a lancé ce fonds d'investissement avec d'autres femmes pour justement leur apprendre à investir, parce que malheureusement dans nos cultures, on ne nous a jamais donné d'éducation financière, on nous a lâchés comme ça dans la vie avec des principes en disant faut faire attention aux garçons, mais on ne nous a jamais appris comment, dans quoi investir, ni comment investir, ni ce que c'était l'argent. Donc ça, c'est une réalité. Donc il y a des profils comme ça. Moi, j'essaie toujours de voir ce qu'elles nous apportent, comment elles ont progressé par rapport à... il y a quelques années, je faisais des articles sur les tontines. Aujourd'hui, un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est une tontine, en fait. C'est une tontine moderne. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire aujourd'hui des articles sur les tontines, c'est de faire des articles sur les fonds d'investissement tenus par des femmes africaines, parce que ça montre une progression, parce que ça va dire que la tontine, c'est toujours un petit clan, hein, c'est toujours des femmes qui se connaissent entre elles et tout ça, donc qui mettent ensemble, qui ça part sur un rapport de confiance, bien sûr. Le fonds d'investissement, c'est la même chose, mais le fonds d'investissement une ouverture beaucoup plus importante et surtout une portée peut-être plus internationale. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la santé aussi, moi, je suis très intéressée par toutes les initiatives qui sont faites au niveau de la santé pour apporter des solutions donc, à des problèmes de santé, donc au niveau de la technologie, mais au niveau de la mode aussi. Je coach beaucoup de types de personnes, des personnes qui organisent des défilés de mode. J'en fais beaucoup et je coach aussi des créateurs parce que j'estime que la mode est un véritable métier. Malheureusement, dans nos pays africains, pendant très longtemps, la mode a été un pis-aller. C'est-à-dire que quand une famille ne pouvait pas envoyer une fille à l'école ou un garçon, on l'envoyait comme apprenti. C'était même pas stagiaire, hein. C'est apprenti chez un tailleur et parfois l'apprentissage durait des années et des années et des années. Mais il n'y avait pas véritablement. Et souvent, le tailleur était un autodidacte. Donc, c'est un autodidacte qui apprend à quelqu'un qui est déjà autodidacte. Donc, je ne sais pas si au bout de 10 à 20 années à travailler avec un autodidacte, on devient un excellent professionnel. Je ne pense pas. Les garçons, on les envoyait faire de la mécanique. Ou alors la coiffure. Donc il y avait des métiers comme ça qui étaient des petits métiers qu'on donnait un petit peu entre guillemets à des personnes qu'on considérait comme les malchanceux de la société. Donc et parfois ils s'en sortaient bien économiquement, ça c'est pas le problème. Mais toujours est-il que aujourd'hui, si la mode a changé, les habitudes de consommation donc des femmes en Afrique mais également dans la Caraïbe ont changé, elles sont plus exigeantes. Elles consomment davantage qu'en Europe parce que la vie sociale est beaucoup plus dense en Afrique qu'en Europe. Ici, vous pouvez, en France, vous pouvez vous contenter de votre petite robe noire et puis de votre jean bleu marine pendant 6 mois. Au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou même au Bénin, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller avec la même robe à 3 soirées de suite. Là, on va vraiment gâter votre nom. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, moi, je coach un certain nombre de personnalités à ce niveau. Par exemple, les entrepreneurs qui font des défilés de mode, bien souvent, ils sont dans l'emphase, comme je dis. Ils oublient parfois la mode pour en faire un spectacle un petit peu... En ayant eu l'image, par exemple, d'un Jean-Paul Gaultier, il y a une vingtaine d'années, qui faisait des défilés de mode absolument somptueux, théâtraux, dramatiques, et tout ça, mais on oubliait que dans la boutique de Jean-Paul Gaultier, il y avait des pantalons très bien coupés, des tailleurs très bien coupés, des t-shirts très simples à vendre. Donc, il y avait une partie, ce qu'on faisait pour le show, pour sa notoriété, et puis il y a la partie commerciale, c'est-à-dire ce qu'on faisait aussi pour la rentabilité économique. Si on vend une robe complètement théâtrale une fois dans l'année, on vendra une centaine de pantalons donc par semaine ou par mois. Donc, malheureusement, donc nos créateurs, souvent, restent dans le théâtral sans penser au portable. Et donc, moi, c'est pour ça que très souvent, je discute avec eux. Je leur donne des règles. Par exemple, le terme « haute couture » est souvent utilisé abusivement dans nos pays africains. Et voilà, donc moi je leur dis non, la haute couture c'est ça, et si vous voulez y arriver, il faut passer par telle étape. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas beau, simplement je crois qu'il faut réinventer ses propres critères, son propre logiciel pour proposer quelque chose. Mais on ne va pas prendre le logiciel des autres en disant oui, voilà, je fais la même chose que toi, alors que l'ourlet est mal fait, que les coutures, que les finitions ne sont pas au top, et voilà. Donc, ce coaching est important parce que nous sommes de plus en plus dans des sociétés de l'urgence, c'est-à-dire que les créateurs, le lundi, ils ont fait une collection, le mardi, ils veulent la célébrité, le mercredi, ils vont sur TikTok, et le jeudi, ils se posent des questions existentielles, mais ils n'ont pas de vision de leur business ou même de leur travail. Donc voilà, donc il y a tout ça à remettre en place et c'est passionnant parce qu'aujourd'hui, la créativité la plus importante se trouve vraiment sur le continent africain.
Je vais revenir sur un point quand tu évoques le fait d'inventer ses propres critères et effectivement de pas forcément chercher à se calquer, se conformer à ce qui peut se passer en Occident, même si ça peut être une source d'inspiration. Toi, quels seraient les critères qui te paraîtraient pertinents par rapport à la créativité africaine, par rapport à la mode africaine?
Alors, je crois que, alors, et là, j'en suis de plus en plus persuadée. Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise avec le terme mode africaine. J'ai la chance de connaître une grande partie des pays africains, notamment les pays francophones. Je connais le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana et tout ça. Mais aujourd'hui, quand je parle, par exemple, de mode française, ça veut dire quelque chose. Je ne connais absolument pas la mode allemande, je ne connais pas la mode hollandaise, je ne connais pas la mode tchécoslovaque, je ne connais pas la mode bulgare, tout ça. Donc, je ne peux pas parler de mode européenne. Et ce serait une erreur de parler de mode européenne, de même que quand on parle de cuisine, on parle de gastronomie française, ça veut dire quelque chose. Je ne connais pas la gastronomie allemande, je connais un peu la gastronomie italienne, espagnole, voilà. Mais je ne sais pas ce qu'on mange en Bulgarie, je ne sais pas ce qu'on mange en Pologne. Donc dire que la gastronomie européenne, non, c'est faux, ça n'existe pas. C'est pas parce que nous habitons finalement sur le même territoire que nous avons les mêmes pratiques. Donc, et en Afrique, c'est exactement la même chose. Ce que l'on porte à Dakar, ce n'est pas forcément ce que l'on porte à Abidjan ni ce que l'on porte à Kinshasa. La façon de nouer le pagne à Kinshasa n'est absolument pas la même façon de nouer le pagne à Abidjan. Et vous pouvez avoir des créateurs qui arrivent à Kinshasa avec des collections qui vont être là, ça sera très joli, mais ils vont se planter économiquement, ça ne va pas se vendre parce que la façon de nouer le pagne est différente. Donc, et ça, ce sont des détails qu'on oublie. On fait de l'Afrique finalement une espèce de gros gâteau comme ça où tous les gens sont pareils parce qu'ils ont la même carnation, mais les différences sont énormes. Les différences sont énormes. Donc, et même dans les pays, il y a des différences entre tel créateur qui est plus dans une mode empruntée finalement après des préceptes religieux, donc c'est le grand boubou, le grand foulard, et ça s'arrête là. Et puis une autre qui est plus une mode urbaine où on sent des résonances à R&B, rappeuse, new-yorkaise, voilà. Donc, et qui correspondent aussi à une réalité d'un marché plutôt jeune et urbain. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, j'ai beaucoup de mal avec le terme mode africaine et je pense que de plus en plus, il faut arrêter de faire cette espèce d'amalgame entre tous les styles, toutes les tonalités. C'est pas parce que il y aura une mode sénégalaise, une mode ivoirienne, une mode burkinabé, une mode béninoise, quand on n'aura pas un sentiment de panafricanisme. Le panafricanisme, ça veut pas dire qu'on va tous manger la même chose. En Côte d'Ivoire, je peux manger ma sauce escargot. À Dakar, je peux manger mon tchip. Au Bénin, je peux manger. Au Togo, je peux manger mon bécoui. Au Congo, je peux manger mon poundou. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ces différences-là aussi sont des richesses. Donc, ces richesses-là, je pense qu'il faut les mettre en valeur. Et c'est pour ça, en ce moment, je suis en France et je suis assez malheureuse parce que je rêve de soleil, je rêve de couleurs vives, je rêve de rose, de bleu, je rêve de bleu cobalt. Et quand je sors, quand je vois les gens, ils sont tous habillés en noir et en gris. Et l'Afrique me manque terriblement. Je rêve de couleurs vives. Enfin, vraiment, je rêve cette espèce d'audace qu'il y a en Afrique et qu'on ne trouve absolument pas en Occident. Donc, ça me manque beaucoup. Et je crois que c'est dans cette audace, ne pas se mettre de barrières, ni chromatiques, ni stylistiques, qu'on va s'imposer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Parce que penser que la mode africaine, c'est la mode qui va plaire aux Occidentaux, je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce que la réalité est là, quand vous allez à une soirée à Abidjan ou à Dakar ou quoi que ce soit, comme je le fais souvent, ben, en fait, c'est un éclat de vie. C'est la vie dans toute sa splendeur. Alors qu'ici, on a l'impression que c'est l'uniformité dans toute sa monotonie. Je suis allée il n'y a pas très longtemps à une soirée, mais 99% des femmes étaient habillées en noir. Et je me suis dit, mais le jour où elles seront en deuil, qu'est-ce qu'elles vont mettre? C'est cynique de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, Paris est la capitale mondiale de la mode. Donc moi, je crois que nos différences en tant qu'Africains, nous devons les faire émerger et en être fiers et ne pas vouloir nous imposer des modèles qui seraient des modèles trop, comment dire, stylisés dans le sens où, oui, voilà, ce seraient des beiges, des gris, des couleurs chic bourgeois, Neuilly, Passy, donc dans des matériaux peut-être africains, mais qui ferait notre identité, notre authenticité plurielle. Et c'est cette pluralité, cette diversité que nous devons mettre en avant et ne pas chercher à faire des gris plus gris que le gris et à faire des noirs plus noirs que le noir et à faire de voilà. Laissons exploser cette lumière et cette... c'est pas une joie de vivre. C'est véritablement ce bouquet de couleurs, voilà. Ici, c'est l'antithèse du bouquet de couleurs. Donc, sauf quand il y a des barbicores qui arrivent comme ça à la suite d'un film ou des collections comme celle de Valentino il y a 2 ans. Mais il faut qu'on laisse exploser ce bouquet de couleurs qui est une des caractéristiques de la mode, entre guillemets, africaine.
Très bien, je te remercie pour tous ces éléments. Ce sur quoi j'ai envie de revenir, c'est que tu évoques beaucoup finalement des faits de société, des comportements de consommateurs, et tu fais des comparaisons notamment entre, de par ton expérience et du fait que tu as beaucoup voyagé, entre des moments de vie que tu as pu vivre en Europe, en France, et d'autres moments que tu as pu vivre, notamment tu parles de soirées, en Afrique, et tu pointes les différences. Si tu devais décrire le comportement d'achat d'une Dakaroise, de quelqu'un au Bénin, en termes de mode, qu'est-ce que tu peux nous partager en fait qui serait pour le coup différent du comportement peut-être occidental, européen ou français?
Je peux dire, il y a deux choses, c'est la boulimie, c'est-à-dire qu'on consomme énormément. Il y a beaucoup d'événements, sociaux, donc c'est d'abord cette espèce de consommation de mode qui est assez exceptionnelle. Donc, deuxièmement, c'est aussi l'audace. J'étais à Dakar il y a 2 mois, à un défilé de mode. Donc, il y avait aussi bien des femmes avec des grands boubous, des grands foulards. Donc, maintenant, les Sénégalaises nouent leurs foulards comme les Nigérianes avec... vraiment une très très grande élégance et tout ça. Donc ça, c'était le côté un petit peu tradit qui existait. Et à côté, il y avait des filles qui étaient hyper sexy, mais enfin d'une beauté extraordinaire dans le sens où elles maniaient les couleurs et elles étaient fières de leur carnation. Alors, c'était des filles souvent qui avaient la peau assez foncés et qui osaient, par exemple, des fuchsias, des rouges, des verts. Il y avait une explosion comme ça. En fait, elles suintaient de beauté. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elles suintaient de beauté, de luminosité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement ici. Alors, le problème, c'est que les créateurs en Afrique ne communiquent pas. Ils communiquent dans leur microcosme. C'est-à-dire qu'ils vont appeler leurs clientes, ils seront un petit peu sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Mais ils n'ont pas une politique de communication pour faire connaître leurs produits. Donc, si bien que cette espèce de, comment dire, de créativité débordante ne sera connue que à de très peu de gens. Et donc, la créativité, par exemple, d'un Lahad Gay que j'ai rencontré à Dakar et dont je suis vraiment tombée fanatique, c'est un jeune qui est vraiment une des pépites du Sénégal en ce moment. Lahad, bon, en fait, il n'est absolument pas connu au Congo, il n'est pas connu à Kinshasa, il n'est pas connu à Libreville. Il est pas connu... Alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de lui ouvrir tous ses marchés. Et donc voilà, donc moi ce que je trouve véritablement, c'est qu'il y a une espèce d'osmose entre la vivacité donc, de la vie sociale en Afrique et les produits qui sont réalisés par les créateurs. Il y a vraiment cette osmose qui est là et surtout beaucoup d'audace. Les femmes osent des décolletés très profonds, des tenues très serrées. Parfois, c'est pas joli, hein, mais le mauvais goût aussi, c'est du goût. Donc voilà, moi, ce que je veux dire, c'est ça. Je peux dire qu'il y a une espèce d'audace qu'on ne trouve absolument plus ici, qu'on ne trouve absolument plus dans la mode, notamment en France, enfin, même en Italie. Donc, qui est finalement, parfois, c'est la répétition de mêmes modèles qu'on voit depuis des années, mais dans des textiles différents, dans des matières différentes. Donc voilà, mais cette créativité débordante, c'est certainement pas ici que je la vois. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je dis que nos créateurs ont tout à gagner en gardant leur identité. Encore faut-il qu'ils puissent avoir les bons outils pour s'exprimer, pour faire de bonnes finitions, pour être formés. Donc voilà, c'est ce qui est très très important. Mais c'est un bonheur, en fait, c'est un bonheur presque pictural. C'est-à-dire, c'est exactement quand on va dans un musée et qu'on voit toutes ces toiles qui sont magnifiques, qui vous parlent, qui sont vraiment comme un miroir de cette société. Et là, c'est la même chose. Donc, beaucoup, beaucoup d'audace, je trouve. Les femmes sont beaucoup plus audacieuses en termes de couleur, en termes de forme, en termes... et puis, de comportement, de façon de se déplacer. Il y a une espèce d'audace dans la façon de marcher qui est complètement en osmose avec le vêtement. C'est-à-dire qu'on ne va pas porter une robe décolletée et puis faire la « Oh, personne ne me connaît, je suis transparente, je ne veux pas qu'on me voit. » Non, là, non, il y a véritablement… elles sont vraiment en adéquation entre leur attitude et ce qu'elles portent. Et je trouve que c'est une forme de confiance en soi qui est absolument magnifique.
Je te remercie beaucoup pour ce partage. En t'écoutant, en tout cas, j'ai vraiment eu le sentiment de voyager à Dakar et j'imaginais ces femmes que tu décrivais. Dans la manière dont tu les décris, on pourrait croire que tu es en train de parler de mannequins que tu as vu défiler sur un podium. Je voudrais préciser ce point. Ce que tu évoques, c'est...
Oui. En fait, elles sont toutes des mannequins. En fait, elles se déplacent toutes comme des mannequins. J'étais dans un nouvel hôtel qui venait d'ouvrir et je regardais même la jeune femme qui servait le petit déjeuner. Mais elle avait un port de tête incroyable. Elle marchait de façon incroyable. Bon, c'était pas très efficace parce qu'elle était un peu lente, mais en fait, ça lui donnait son costume était très simple. C'était un costume banane à l'européenne avec un blazer et puis marron et puis une jupe noire. Mais elle se déplaçait avec une espèce de nonchalance qui, en fait, elle était complètement elle vivait ce qu'elle faisait. Voilà, elle vivait ce qu'elle faisait. Alors peut-être qu'elle le vivait mal parce que j'aurais aimé qu'elle soit plus rapide, mais elle vivait le fait d'être bien coiffée parce qu'elle était super bien coiffée. Elle avait de très jolies tresses, elle avait un port de tête incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne concerne pas une jeune génération. Quand je parle des femmes avec des grands boubous, en général, ce sont des femmes âgées, ce sont des femmes entre 60 et même 75, 80 ans, qui étaient là, mais qui avaient une allure extraordinaire. Extraordinaire. Dans la façon de se mouvoir, de se déplacer, de poser sa tête. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que je dis que notre valeur ajoutée, faire valoir nos différences et justement et développer cela, c'est là où on peut gagner véritablement en récompense, en assurance et puis aussi en termes de marché. C'est certainement ça.
Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas parce que là, tu nous as dressé un portrait à la fois du créateur et également du consommateur de mode africain. Et j'aime bien le fait que tu aies parlé finalement de différents cas concrets. L'idée, ces femmes dont tu parles, ce sont des femmes de la société dakaroise africaine qui sont des femmes, c'est-à-dire lambda, mais qui ont dans leur rapport à la mode et dans leur rapport à leur représentation physique, presque, est-ce que pour toi, on n'est pas tous un peu, est-ce que ces femmes-là, elles n'ont pas toutes un peu un côté styliste en fait ? Parce que tu parles de leur coiffure, de leur port de tête, de leur allure et des vêtements qu'elles choisissent. Bah finalement, il y a un travail de styliste à finalement choisir la bonne couleur, choisir la bonne coupe et savoir la valoriser. Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas un peu ce truc où tout le monde a un peu ce côté styliste, en fait ?
La beauté en Afrique, et ça, c'est une constante qu'on peut retrouver dans tous les pays, la beauté est presque une mesure d'hygiène. De même qu'on se brosse les dents ou on se lave, une femme se doit d'être belle. Alors, les critères de beauté varient en fonction des pays, des cultures, des ethnies, mais ce sentiment de devoir être belle, c'est de même que c'est une forme de politesse vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres. Et si bien que quand une femme s'habille, moi j'étais dans des villages au mois de juillet, donc vers Yamoussoukro, et j'étais étonnée de voir que même dans les villages, il y avait toujours une quête de... même chez les femmes donc de milieux assez défavorisés, donc des femmes dans l'agriculture, il y avait toujours cette espèce de quête d'avoir un petit truc sur elles qui ferait que, en fait, ok, d'accord, nous sommes peut-être de milieux défavorisés, mais nous prenons soin de nous. Donc, et je peux dire que... Moi, en tant que journaliste, j'étais là, j'étais peut-être la moins bien coiffée, mais elles avaient toutes donc des tresses magnifiques, elles avaient toutes donc soit une taille basse et puis un pagne, mais avec un petit collier, avec un petit truc. Et quand je regardais ça, je dis tiens, ça c'est pas mal, ça c'est machin. Donc et puis j'étais là en train de dire où est-ce que vous l'avez acheté. Donc c'était moi qui faisais mon shopping auprès donc des femmes baoulées que je rencontrais. Donc, je pense que c'est ça. C'est l'éducation qu'on donne aux petites filles. C'est d'être toujours bien sur soi. Et bien sur soi, c'est pas seulement être propre, c'est aussi que la beauté soit en fait une forme de politesse, de remerciement, de grâce. Voilà. Que la beauté soit une espèce de grâce pour tous les bienfaits que l'on reçoit. Ou voilà. C'est une forme de récompense pour soi. C'est aussi une forme de se dire je le mérite, je suis une femme, je suis comme ça, je le mérite et je dois le faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis parfois c'est aussi un poids, hein, donc ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Mais véritablement, pour moi, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis, mais. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est vraiment fondamental. Et je donne toujours cet exemple. Il y a quelques années, j'étais partie en Côte d'Ivoire avec un chef d'entreprise français. et on était dans un grand hôtel. Et lui, il est venu, on était parti pour 4 jours en mission, en reportage. Lui, il était venu avec un trolley pour 4 jours. Et en fait, tous les jours, il avait la même chemise. Et j'étais hyper choquée parce que, il transpirait dans sa chemise, tout ça. Il avait une chemise à carreaux roses et blancs. Et moi, j'étais très, très choquée parce que même le personnel de l'hôtel où on était changeait de chemise tous les jours, alors que ce chef d'entreprise français qui avait beaucoup d'argent, en fait, était venu avec le strict minimum en Afrique, quoi. Un trolley, donc c'est-à-dire 10 kilos de vêtements, chaussures et puis de documents pour son voyage, donc tenait dans sa valise. Et j'étais très choquée par ça, parce que en fait les gens le regardaient comme si en fait il y avait quelque chose, comme s'il était pauvre en quelque part, pauvre non pas financièrement mais pauvre par rapport à tout ce qu'on aurait pu lui apprendre et qu'il n'a pas su retenir de la bienséance, de la propreté, de l'hygiène, de l'image aussi que l'on donne, de ce que l'on est. Donc, et c'était très choquant parce que quand je demandais, par exemple, à un des gardiens de l'hôtel ou à la réception, est-ce que vous avez vu monsieur Antel, on me dit, ah, le blanc avec la chemise là-bas. Et moi, en fait, j'avais un petit peu honte d'être à côté de lui. Et ça, c'était la réalité. Ça, c'était la réalité. Donc, culturellement, ce sont des choses qui arrivent. Mais je crois véritablement, pour revenir donc, à la question des femmes, ce ne sont pas des stylistes, mais ce sont des artistes. C'est-à-dire que le corps aussi est mis en scène. Ce n'est pas seulement le vêtement qui est mis en scène, c'est aussi le corps qui est mis en scène. C'est la coiffure. C'est parfois la teinture sur les mains, c'est parfois le maquillage, mais tout ça, c'est un travail véritablement artistique. Oui, bien sûr.
Écoute, c'est vraiment un plaisir de t'entendre raconter toutes ces anecdotes et à chaque fois de donner des explications avec des exemples concrets. Donc, j'aime beaucoup en fait cette définition, ce mot que tu choisis d'artiste. Du coup, par rapport à ce qu'on peut voir en Occident où tu parlais de monotonie, d'uniformisation et d'un dictat de la beauté où en fait les standards de beauté ils sont définis, c'est Kendall Jenner et il y a énormément de jeunes filles en Occident qui rêvent d'être comme cette incarnation de la beauté. Est-ce que tu as l'impression qu'en Afrique il y a ces mêmes dictats ou qu'au contraire il y a davantage d'expression des différentes formes de beauté et il y a un respect des différentes formes de beauté?
Alors, je dis souvent que Internet a pollué nos imaginaires. Il les a développés, mais il les a pollués. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes sur le continent, alors ça c'est une constante, hein, qui sont des clones de Kim Kardashian. Et Kim Kardashian elle-même est un clone d'une femme noire. D'accord ? On est d'accord. Kim Kardashian, ses attributs de beauté, c'est-à-dire ses seins et ses fesses, la façon dont elle a modelé son corps, est un corps de femme noire. Donc ça, c'est, voilà, ses lèvres pulpeuses, ce sont des femmes de femme noire. Ce sont des lèvres de femme noire. Donc elle a adopté toutes les critères en principe, physique, donc des femmes noires, des stars noires notamment, des Kylie Minaj, des choses comme ça, mais elle l'a fait en tant que femme blanche, donc voilà. Donc elle a propulsé un modèle qui existait déjà, mais qui n'était pas propulsé par, ni valorisé donc, par les médias, mainstream. Donc en fait, elle avait quelque chose de rassurant. Elle n'était pas noire, elle est blanche, mais elle est un espèce d'androïde avec ce qui peut apparaître comme sexy et tout ça. Donc ça c'est une première chose. Et aujourd'hui en Afrique, on a ces jeunes femmes qui essayent absolument d'être des clones de Kardashian. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit avec des longs tissages, le même maquillage, le maquillage donc avec beaucoup de contouring. Pour affiner, pour modeler le visage artificiellement avec donc des produits de maquillage, souvent de la dépigmentation, et puis l'utilisation aussi du sport à outrance pour avoir le ventre très plat et les fesses calipiges. la taille très cambrée et tout ça. Donc, pour vraiment pour avoir le corps de Kardashian. Et il y en a qui font leur fonds de commerce, leur notoriété uniquement en étant donc des Kardashians noirs. Donc, ça c'est une première chose. Il faut voir que Kim Kardashian n'est pas une icône de mode, c'est une icône, voilà, dans beaucoup de domaines, mais ce n'est pas une icône de mode. Même si aujourd'hui elle a signé avec Fendi pour être un petit peu leur image. Donc ça c'est une première chose. Mais ce qui est intéressant dans nos pays, c'est qu'il y a un dépassement, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'un côté quelqu'un qui sera un peu à la Kim Kardashian, mais avec un petit peu de l'Angela Davis, ou alors un petit peu de la Viola Davis, ou alors un petit peu, donc voilà. Donc on picore des tendances comme ça, oubliant qu'au départ la première tendance part quand même de chez nous, puisque le phénomène Kim Kardashian n'est intéressant que par les audaces qu'elle réalise, sinon ce sera une femme comme une autre. C'est une très bonne, un très bon produit marketing, ça c'est certain. Ça a correspondu à une image assez particulière, donc d'une période, d'une époque qui existe depuis déjà plus de 10 ans. Mais il faut voir que ça a eu un impact très très important sur les jeunes générations en Afrique, notamment au niveau de cette mise en avant de soi, de son corps, montrer ses seins, montrer ses fesses, le twerk sur tous les réseaux sociaux. Ça c'est une première chose. Mais à côté de ça, vous avez des femmes qui sont plus classiques, qui sont plus respectueuses de leur identité, qui aiment la mode, qui aiment s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais qui ne vont jamais à aucun moment se travestir pour changer leur identité, pour être ce qu'elles ne sont pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a Kim Kardashian qui est à la mode, mais demain, si vous avez le modèle soudanais qui vient, ben, ça veut dire que vous allez être cocotaillé. Donc, est-ce que vous allez bronzer plus? Est-ce que vous allez prendre des pilules pour avoir la peau beaucoup plus foncée? On n'en sait rien, mais c'est un modèle qui est en train d'arriver et qui est imposé par les maisons de mode occidentales, qui ont une vision finalement très coloriste des femmes noires. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Mais il faut voir que ce qui est vraiment intéressant en Afrique, c'est cette diversité donc, de styles qui peuvent cohabiter dans une même soirée, dans un même aéropage donc de personnes. Vous pouvez avoir Kim Kardashian, vous pouvez avoir Nicki Minaj, et puis vous pouvez avoir Michelle Obama. Et c'est ce qui se passe.
Très bien. Mais écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'était un éclairage extrêmement intéressant. En plus, avec le fait que tu voyages énormément sur le continent, tu as pu étayer ton propos d'énormément d'exemples. Toi, aujourd'hui, de par ton expérience, qu'est-ce qu'il faudrait, quelle serait la première pierre en fait que tu mettrais pour pouvoir contribuer à donner davantage de visibilité aux modes africaines au pluriel? Sur quoi est-ce que tu investirais en fait? S'il fallait mettre une pièce quelque part, une pièce symbolique, à une somme d'argent plus importante, mais en tout cas, s'il y avait un mouvement à faire, ce serait lequel pour toi, pour pouvoir vraiment faire en sorte que les modes africaines soient davantage sur le devant de la scène et soient mieux reconnues sur la scène internationale?
Alors, il faut voir que la mode est d'abord une industrie. La mode, c'est d'abord du business. La mode, c'est, moi je dis, on vend une robe comme on vend une boîte de petits pois, une boîte de sauce tomate. C'est-à-dire qu'on répond à un produit. Le produit, il faut qu'il soit en vente. Il faut qu'on dise que ce soit la meilleure boîte de sauce tomate comme ce soit le meilleur vêtement. Il faut qu'il soit disponible. Il faut qu'il réponde au pouvoir d'achat donc des gens qui vont l'acheter. Et puis, après, tu vas améliorer ta sauce tomate, tu vas mettre un petit peu de piment, donc tu vas dire sauce tomate au piment pour inciter les gens à acheter de la sauce tomate au piment. Après, tu vas mettre sauce tomate, piment, oignon pour inciter les gens à acheter sauce tomate, piment, oignon. La mode, c'est exactement la même chose. Si on ne considère pas la mode comme une industrie, comme un business, avant de penser que c'est une forme d'art. Pour moi, ce n'est pas un art, mais simplement, il faut être artiste pour faire de la mode. C'est Yves Saint Laurent qui disait ça. Mais ce n'est pas une forme d'art. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui est nos pouvoirs publics en général en Afrique ne prennent absolument pas en considération les industries créatives, à part la musique. Voilà. Ça, c'est une première chose. Or, aujourd'hui, on voit que les secteurs, par exemple en France, qui caracolent au niveau de la bourse, ce sont les secteurs des industries, en fait, qui ne sont pas essentielles. Ce sont les industries du rêve, les industries du loisir, les industries du plaisir, comme la mode. Quand on parle donc de la profusion, finalement du chiffre d'affaires d'Hermès qui... dans un monde un petit peu en marasme, puisque le marché chinois, enfin le marché asiatique est assez atone en ce moment, pour différentes raisons. Et il faut savoir que 30% du chiffre d'affaires, donc des grandes maisons françaises, un peu plus de 30%, est fait sur l'Asie, notamment sur la Chine. Donc, on devait s'attendre à des baisses records, finalement, des chiffres d'affaires, donc des grandes maisons de luxe. Et là, bah, contre toute attente, il y a Hermès qui caracole, Bernard Arnault est toujours un des top 5 milliardaires de ce monde. Et ce sont des... Alors, moi, je définis le luxe comme quelque chose dont on n'a pas besoin, mais dont on a envie. Et toutes ces choses dont on n'a pas besoin, c'est ce qui marche le plus. La mode, c'est un peu ça. On peut vivre avec un jean, deux jeans par an, et puis quatre t-shirts, du moment qu'on lave vite. Donc ça peut valoir. Mais simplement, la mode aussi nous permet d'accéder à des espèces de rêves, des rêves de ce que nous pensons être, de ce que la mode peut changer dans nos vies. Mais pour ça, il faut toute une machine économique, c'est-à-dire une industrialisation, du savoir-faire, de la formation, des structures, et surtout des appuis pour mettre la mode en avant. Regardez ce qui s'est passé avec la Cannes en Côte d'Ivoire, où véritablement ça a été un succès phénoménal. Et même les gens, moi je ne connais absolument rien au foot, mais tous les jours ou tous les deux jours, je regardais qui gagnait, qui jouait, qui c'est ça. Je me suis trouvée intéressée par ce qui se passait et j'étais très très fière de tous les résultats. On me disait pour qui tu es, je dis non, moi je suis pour le gagnant, mais je suis surtout pour tout ce qui se passe à côté du foot, en fait, toute cette joie de vivre qu'il y avait à côté du foot et qui nous coupait un petit peu de tous les drames qu'on vit actuellement sur la planète. Donc, la mode, c'est un peu ça. Mais s'il n'y a pas les structures derrière, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Il y aura une identité qui va éclore de temps en temps, dont on va parler, puis ce sera une autre, tout ça. Et surtout, on va attendre que ce soit les Européens qui découvrent les gens pour les aimer. On va attendre que ce soit Arnaud qui découvre Tébé Magougou, que ce soit un tel qui découvre telle personne, pour pouvoir les mettre en avant, pour leur donner des moyens de communication que nos États devraient faire. Et tant que nos États ne prendront pas en considération le travail des artistes, en considérant que la mode, ou même la peinture, que les arts en général, sont des instruments de soft power très très importants. Regardez l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, d'un côté, on parle de Boko Haram, des attentats et tout ça, mais de l'autre, vous avez des gens comme Davido, le chanteur, ou comme Burna Boy qui récolte des prix, comme la Fashion Week de Lagos, qui est une des Fashion Week les plus renommées au monde, une des Fashion Week africaines qui est les plus renommées au monde. Bah, tout ça fait que on s'aperçoit que dans ce pays de plus de 150 millions d'habitants, il y a des choses qui se passent et que tout n'est pas tourné vers le terrorisme ni quoi que ce soit. Et que tous ces éléments donc, de soft power que sont la mode, la musique, le cinéma, puisque Nollywood est un élément très très important donc, du développement au Nigeria, donc sont aussi importants que le pétrole ou que les autres matières premières. Et ça, malheureusement, nos États n'ont pas compris ça ou ne mettent absolument pas en avant et il n'y a pour l'instant aucun ministre de la Culture en Afrique qui puisse revendiquer finalement des prises de position positives pour la mode dans leur pays. Ça, c'est une catastrophe. C'est pas possible qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, n'ait pas une fashion week digne de ce nom. Quand je dis une fashion week, c'est une plateforme pour mettre en avant les artistes les plus méritants et les plus talentueux qui existent et qui se battent avec des moyens dérisoires. Parfois, ils sont vraiment dans la précarité, alors que bon, ils ont un talent extraordinaire et il suffirait de mesures incitatives. Les mesures incitatives, ça peut être quoi? Ça peut être donc des vraies écoles de formation, ça peut être des taxes moins élevées pour les créateurs, ça peut être vraiment tout un panel de mesures qui puissent finalement fédérer, ça peut être l'ouverture aussi de centres de formation. Tout ça, ce sont des mesures qui ont fait qu'en France, ça s'est fait et qu'aujourd'hui, la mode est un secteur en pleine croissance, surtout la haute couture, en pleine croissance en France, et c'est de la valeur ajoutée. Quand les étrangers viennent en France, qu'est-ce qu'ils vont ? Avant d'aller au musée, ils font Avenue Montaigne, ils vont sur les Champs-Élysées, ils vont voir les boutiques de mode. Ils vont voir surtout ça. Après, ils vont au château de Versailles, ils vont au musée, et tout ça. Mais d'abord, les premiers endroits où ils vont, ce sont ce qui correspond véritablement à des besoins qui ne sont pas du tout essentiels, mais qui sont tellement importants pour eux. C'est une expérience inestimable pour eux. Alors que parfois, ils peuvent acheter les mêmes choses dans leur pays, mais l'expérience qu'ils vont faire ici. Donc, je ne dis pas qu'il faille copier, je dis simplement, en mettant en place donc, des structures, des éléments, un environnement favorable justement au développement donc, des créateurs, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai un créateur que j'aime beaucoup, qui fait des bijoux depuis des années, et je rêve de faire une exposition sur lui. C'est Michael Kra, qui depuis 30 ans que je le suis, j'ai des pièces de lui qui sont d'une beauté et d'une modernité extraordinaire. Mais Michael Kra, qui est ivoirien, qui a travaillé pour Saint-Laurent, qui a travaillé pour un certain nombre de maisons françaises, mais aussi en Italie, il a travaillé en Afrique du Sud aussi, où il a formé des femmes, qui a une pratique extraordinaire, qui est d'une modernité flamboyante. Il n'y a jamais eu d'exposition sur Michael Kra dans son pays. Il n'y a jamais eu ça. Donc, on n'honore pas. Regardez Chris Seydoux qui est parti il y a 30 ans. Chris Seydoux, il n'y a jamais eu d'exposition sur Chris Seydoux, alors que Chris Seydoux était, entre guillemets, notre Yves Saint-Laurent. C'est lui qui a complètement apporté une modernité à la mode donc ouest-africaine. Et jusqu'à présent, on parle de lui, mais il n'y a jamais eu d'expo sur lui. Il n'y a jamais eu ça. Donc, les jeunes générations, ils vont dire Chris Seydoux, mais ils ne savent même pas qui c'était. Donc, on n'a pas cette mémoire, on n'a pas cette volonté de récompenser les justes et les talentueux, mais il faudrait le faire parce que demain, vous allez voir une exposition de Michael Kra à New York ou à Paris ou à Berlin ou à Milan, une exposition de Chris Seydoux à Paris, à New York, à Milan, mais jamais en Côte d'Ivoire, malheureusement, jamais au Mali d'où il était originaire. Donc, tant qu'on n'aura pas on n'aura pas ce respect pour nos artistes. Et justement, les pouvoirs publics, c'est leur boulot. Les ministres de la Culture, ils devraient se bouger. Et puis, mais pas seulement les ministres de la Culture, mais aussi les ministres du Commerce, les ministres des Petites et Moyennes Entreprises devraient se bouger pour toutes ces pépites, tous ces diamants bruts que l'on a, les aider à avoir toutes les facettes qui participent à leur valeur. Et ça, c'est pas un franc qu'il faudrait mettre, c'est pas 1000 francs CFA qu'il faudrait mettre, c'est du plomb dans la tête de tous ces gens pour qu'ils puissent se rendre compte que la richesse est là. Hein, c'est comme nos matières premières, l'Afrique est un des continents où il y a le plus de matières premières, mais c'est le continent aussi qui reçoit le moins de subsides de ces matières premières parce qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas assez de transformation. Regardez le café cacao, regardez les diamants, regardez l'or. Donc là, c'est la même chose. Nous avons des talents extraordinaires, mais ils ne sont pas peaufinés, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas valorisés. Et c'est là où il faudrait mettre l'argent, ce n'est pas ailleurs.
Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage plein de sagesse et d'expertise.
qui nous livre véritablement un guide des actions à mener pour valoriser les industries culturelles et créatives africaines. Et j'aime le fait que tu parles à la fois de soft power, mais aussi de business, en fait. Qu'on n'ait pas l'impression que la mode, c'est du chiffon et qu'on ne lui accorde pas l'importance, en fait, qu'elle peut avoir, surtout quand on regarde, comme tu l'as si bien souligné, comment des Bernard Arnault, comment des groupes Kering, comment même le patron du groupe Inditex, qui est aussi une première richesse mondiale, comment ces gens-là, c'est avec finalement la vente de sacs, d'accessoires, de chaussures qui arrivent à dominer le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Afrique, on n'arrive pas à créer ce type d'empire, en fait. Et donc là, tu nous as donné plein de pistes sur les actions qui pourraient être menées et les mobilisations en fait multipartites qui pourraient être mises en œuvre pour pouvoir réellement changer la donne et valoriser tous les savoir-faire du continent.
Oui, à mon sens, c'est vraiment très important. Mais comme je dis encore, il faut toujours que ça parte de nous. Il ne faut pas forcément vouloir être le Bernard Arnault africain, il faut être soi-même africain avec les particularités de nos marchés. Parce que je dis toujours aux jeunes créateurs que je rencontre et qui rêvent de venir à Paris, alors je dis toujours « fuck Paris, vous avez un marché de 2 milliards de personnes sur votre continent. Inondez-les d'abord, mais ne pensez pas à Paris. » Ne pensez pas à Paris. Regardez tout ce qu'il y a à faire autour de vous. C'est superbe, c'est magnifique, c'est voilà. Sinon, Paris, c'est aussi perdre son identité, en quelque part. C'est se mettre dans des rouages, c'est se mettre dans des critères, c'est se mettre dans des barrières pour pouvoir plaire à un public. Ça, c'est certain. Je leur dis toujours, fuck Paris, fuck New York. Excuse-moi de la vulgarité. Mais...
Ah mais je t'en prie, mais ce sera le mot de la fin. Je pense que c'est important de, comment dire, de effectivement développer, se développer dans sa ville, dans la sous-région, d'essayer de faire des connexions entre pays anglophones, lusophones et francophones. Et puis cette aura-là, c'est un marché qui est immense. Et puis, effectivement, pourquoi pas des villes occidentales, mais il y a énormément d'opportunités sur le continent sans forcément penser à Paris. On est tout à fait d'accord. Pas de problème pour la vulgarité. F Paris, ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup, Ramata.
Merci à toi et je te dis à très vite en Afrique ou ailleurs.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple, partagez l'épisode à 3 de vos amis, prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.